Chapitre 30. Au revoir. En ce qui me concernait personnellement, j'étais arrivé au port, mais j'avais toujours Alan sur les bras, Alan à qui j'étais si redevable. Et je voyais sous un jour tout nouveau le meurtre et James Deglens. Sur ces deux chapitres, je m'ouvris à Rankailor, le lendemain matin vers 6 heures, en nous promenant de long en large devant le château de Shawes, d'où l'on découvrait à perte de vue les champs et les bois qui avaient appartenu à mes ancêtres et qui m'appartenaient aujourd'hui. Tout en discutant ces graves questions, mes yeux parcouraient ce paysage avec délice et mon cœur bondissait d'orgueil. Sur l'évidence de mon devoir à l'égard de mon ami, le notaire n'avait aucun doute. Je devais à tout prix l'aider à quitter le pays. Au sujet de James, néanmoins, il était d'un avis différent. « Monsieur Thompson, dit-il, est une chose, et le parent de Monsieur Thompson en est une tout autre. Je connais mal les faits, mais je présume qu'un haut seigneur, que nous appellerons, si vous voulez bien, le duc de A, a quelque chose à voir, et doit même éprouver quelque animosité contre lui. » Sans doute le duc de A est un parfait gentilhomme, mais Monsieur David... Timeo qui noquere Deos, je crains les dieux capables de nuire. Si vous cherchez à lui ravir sa vengeance, souvenez-vous qu'il y a un moyen de supprimer votre témoignage, c'est de vous mettre sur la sellette. Vous y seriez à la même sauce que le parent de M. Thompson. Vous me répondrez que vous êtes innocent, mais ne l'est-il pas aussi, lui ? Et pour vous, un procès capital devant un jury Highlander, concernant une querelle Highlander, et avec un juge Highlander comme président, vous conduirait tout droit à la potence. Or, j'avais déjà fait toutes ces réflexions, et ne leur trouvais pas de réponse satisfaisante. Ce fut donc en toute sincérité que je répondis. « En ce cas, monsieur, je n'ai d'autre perspective que la corde, n'est-ce pas ?» « Mon cher garçon, s'écria-t-il, allez au nom de Dieu et faites ce que vous croyez juste. Il serait triste à mon âge d'aller vous conseiller de choisir la sécurité avec la honte. Je retire ce que j'ai dit et je m'en excuse. Allez et faites votre devoir et soyez pendu s'il le faut, comme un gentilhomme. Il y a de pires choses au monde que d'être pendu. » « Guerre, monsieur, dis-je en souriant. « Si fait, monsieur, s'écria-t-il, beaucoup, et il vaudrait mieux pour votre oncle, sans chercher plus loin, qu'il fût à gigoter honorablement au bout d'une corde. » Puis il rentra dans la maison, toujours fort animé et visiblement très content de moi, pour m'écrire 2 lettres qu'il commentait à mesure. « Celle-ci, me dit-il, est pour mes banquiers, la Société des Lins Britanniques, et elle ouvre un crédit à votre nom. Consultez M. Thompson, il trouvera des moyens, et ce crédit vous permettra de les réaliser. Vous serez, j'en suis persuadé, bon ménager de vos finances, mais en faveur d'un ami comme M. Thompson, je ne reculerai pas devant la prodigalité. Du reste, pour son parent, voici le meilleur moyen. Vous allez trouver l'avocat général pour lui raconter votre histoire et lui offrir votre témoignage. Qu'il l'accepte ou non, c'est une toute autre affaire, qui dépend du duc de A. Afin que vous arriviez bien recommandé chez le Lord Avocat, je vous donne ici une lettre pour un homonyme à vous, le lettré M. Balfour de Pilrig, un homme que j'estime. Cela fera meilleur effet que vous soyez présenté par une personne de votre nom, et le Laird de Pilrig est très considéré dans le monde judiciaire. Et se trouve en bon terme avec le Lord Avocat Grant. À votre place, je ne le harcèlerai pas de détails, et même, ne l'oubliez pas, je juge inutile que vous parliez de M. Thompson. Prenez exemple sur le Laird, c'est un bon modèle. Avec l'avocat général, soyez discret, et en toutes ces matières, puisse le Seigneur vous guider, monsieur David. » Là-dessus, il prit congé de nous et se mit en route avec Torrance pour le ferry, cependant qu'Alan et moi nous dirigions vers la ville d'Édimbourg. Tout en marchant au long du sentier, et encore quand nous fûmes arrivés à hauteur des piliers et de la loge inachevée, nous regardâmes une dernière fois le château de mes pères. Il se dressait dans sa nudité vaste, sans une fumée, tel un lieu inhabité. Mais à l'une des fenêtres du haut, la mèche d'un bonnet de nuit frétillait de haut en bas et d'avant en arrière, tel un lapin au bord de son terrier. Je n'avais reçu guère de bienvenue lors de mon arrivée, et moins encore d'amabilité durant mon séjour, mais mon départ fut suivi longuement des yeux. Nous cheminions, Alan et moi, avec lenteur. Nous avions peu de goût pour causer, voire pour parler. La même idée nous obsédait l'un et l'autre, savoir que l'heure de notre séparation était proche, et le souvenir de tous les jours passés m'accablait de mélancolie. Nous parlâmes néanmoins de ce qu'il convenait de faire, et il fut résolu qu'Alan resterait dans le comté, tantôt par-ci, tantôt par-là, mais venant une fois par jour à un endroit désigné où je serais à même de communiquer avec lui, soit en personne, soit par messager. Entre-temps, j'irai trouver ce notaire Appin Stewart, homme par conséquent digne de toute confiance, à qui je m'en remettrai pour nous dénicher un bateau et ménager à Alan un embarquement sûr. Le tout ne fut pas plus tôt réglé que la parole sembla nous faire défaut, et mes tentatives de badinage avec Alan sur son nom de Monsieur Thompson et les siennes avec moi sur mes nouveaux habits et mon domaine laissaient trop voir que nous étions plus près des larmes que du rire. Nous arrivâmes sur la colline de Corstorphine, et quand nous fûmes près du lieu-dit le repos bien gagné, d'où l'on découvre les étangs de Corstorphine et au loin la ville avec son château sur la hauteur, nous fîmes halte, car nous comprîmes tacitement que c'était là où nos chemins divergeaient. Il me répéta encore une fois ce qui avait été convenu entre nous, l'adresse du notaire, l'heure à laquelle je pourrais trouver Alan chaque jour, et la façon dont devrait s'annoncer quiconque s'en viendrait vers lui. Je lui donnai alors tout l'argent que j'avais sur moi, 2 ou 3 guinées reçues de Ron Kaylor, afin qu'il ne mourût pas de faim dans l'intervalle, et nous restâmes un moment à regarder Édimbourg en silence. « Allons, au revoir, » dit Alan, qui me tendit sa main gauche. « Au revoir, » dis-je. Et je donnai à sa main une légère pression, puis redescendis la côte. Aucun de nous ne regarda l'autre en face, et aussi longtemps qu'il resta en vue, je ne jetai pas un seul regard sur l'ami que je laissais derrière moi. Mais en me dirigeant vers la ville, je me sentis infiniment perdu et esseulé, et dus résister à la tentation de m'asseoir au bord du fossé et de pleurer comme un enfant. Il était près de midi lorsque je passais devant l'église de l'Ouest et le marché aux herbes pour pénétrer dans les rues de la capitale. La hauteur démesurée des bâtiments, élevée de 10 à 15 étages, les étroites voûtes d'entrée qui vomissaient à chaque instant du monde, les marchandises aux étages, les boutiques, la circulation et la rumeur incessante, les mauvaises odeurs et les beaux habits, et 100 autres détails trop infimes pour les mentionner, me frappaient d'une sorte d'hébétude, au point que je laissais la foule m'emporter de ci de là. Mais tout le temps, je ne cessais de penser à Alan, resté là-bas au repos bien gagné, et tout le temps, bien qu'on dût me croire plutôt enchanté de ces belles choses et de leurs nouveautés, le remords, eût-on dit, comme d'une mauvaise action, me rongeait le cœur, telle une dent de glace. La main de la Providence conduisit ma dérive, et je me trouvais aux portes de la Société des Lins Britanniques. Thank you.